Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans les guides de l'auto. Cube Radio.
Frédéric, en deuxième partie d'émission, on va continuer de parler de voitures, bien entendu, mais de petites voitures cette fois-ci. On va recevoir, en fait, on reçoit à l'instant même Nadim Moubarak, qui est collectionneur de voitures majorettes. Bienvenue parmi nous, Nadim.
Merci beaucoup.
Explique-nous, c'est quoi des majorettes, tout simplement?
Bon, ben des majorettes, c'est un peu comme des Hot Wheels ou des Matchbox. La seule différence, c'est que c'est une marque française, enfin qui a longtemps été française, et sont des petites autos à l'échelle 1,64. Ça veut dire que l'auto est 64 fois plus petite qu'une vraie voiture. Ça tourne autour de cette échelle-là, c'est jamais très précis.
Et justement, bon, tu as comparé cette marque-là à Hot Wheels, qui est peut-être la marque la plus connue dans cet univers-là. Comment cette marque-là est arrivée sur le marché et comment elle s'est distinguée?
Bon, ben déjà, c'est Émile Véron qui est à l'origine de cette marque-là. Émile Véron, qui est un entrepreneur français, qui avait déjà une expérience dans le domaine du jouet parce qu'il était copropriétaire de la marque Norev, qui est Véron à l'envers et qui est aussi une entreprise de petites autos. Il était en fait copropriétaire de cette compagnie avec son frère et puis il a décidé de se lancer en business tout seul. Et il a créé la société Railroute en 1961. Et Railroute, donc un peu de train, un peu d'auto, un peu de tout aussi, parce qu'au début, cette compagnie de jouets fabriquait des biberons, des toupies, un tas de jouets différents.
Qui n'avaient aucun rapport à l'automobile.
Mais il y avait aussi des autos, il y avait même des petits trains, mais... il y avait une espèce de variété. On dirait qu'il tâtait le terrain au début, Émile Véron. Puis, 5 ans plus tard, dans une promenade
en auto... Est-ce que ce sont des items que tu as dans ta collection?
Oui.
Là,
Ben, par exemple, le biberon, je l'ai. Oui. Le biberon, je l'ai. La toupie, je ne l'ai toujours pas, mais ça va venir à un moment donné. Je les achète plus parce que ça fait partie de l'œuvre d'ensemble, n'est-ce pas? Parce que j'ai aucun intérêt à collectionner des toupies.
Là, on remonte à quelle année environ?
On est en 1961. Okay. Comme je le disais, 5 ans plus tard, la femme d'Émile Véron lui dit « Tu devrais changer peut-être le nom de ta compagnie et l'appeler plutôt Majorette. C'est un beau nom. » Alors, il a adopté ce nom-là en 1966 et là, il se concentre quasiment à 100% sur la production de petites autos. Émile Véron voit qu'il y a une espèce de fenêtre d'opportunité. Il y a énormément de succès en Grande-Bretagne avec les marques Dinky Toys, Corgi et Matchbox. Alors là, il se dit pourquoi pas faire l'équivalent français, produire des modèles, surtout des modèles français. Il a produit aussi des modèles d'autos américains et autres, mais surtout français, du Citroën, du Peugeot, du Renault.
Puis est-ce que c'est des marques qui étaient boudées, entre guillemets, par les Hot Wheels, Matchbox de ce monde à l'époque?
Évidemment, parce que chaque compagnie prêche pour sa paroisse. Donc, les Britanniques avaient tendance à faire surtout des modèles britanniques. Les Américains étaient fiers de leur propre marque. Donc, il a vu qu'il y avait une façon de percer le marché, puis il a visé juste. À la base, n'est-ce pas, Émile Véron est un homme d'affaires, c'est pas un collectionneur. Il a vu qu'il y avait de l'argent à faire et il ne s'est pas trompé parce que dès 1967, il s'installe aussi au Canada. Il y a une filiale canadienne de majorettes, une compagnie qui s'appelle Medica, qui était basée à Saint-Hubert. On voit d'ailleurs la mention sur les emballages canadiens, qui, soit dit en passant, sont extrêmement rares. Dans ma collection, j'en ai que 4 des emballages canadiens de l'époque. C'est très difficile d'en trouver.
Et, c'est une aventure qui aura duré assez peu longtemps au Canada, comme ça?
Ben non, parce que... Okay. Non, mais par la suite, disons que...
Mais le volume a été plus petit.
Ben, ça dépend. Il y a eu des périodes quand même assez fastes pour Majorette au Canada, mais il touchait à tout. Hein. Il tapait un peu sur tous les plans. Aux États-Unis aussi, un an plus tard, il y a eu une entreprise qui a été créée, un distributeur qui distribuait les Majorettes sous des emballages typiquement américains. Et ça fonctionnait bien. Hein. On parlait d'à peu près 30% de croissance chaque année à partir de 1967. Donc, ça fonctionnait bien. Puis, Émile Véron avait une bonne façon de faire les affaires. Hein. Il y avait des catalogues, il y avait des objets promotionnels. Le petit enfant qui allait au tabac, qui est l'équivalent du dépanneur ici pour acheter une majorette, on lui remettait un sachet en papier avec le logo de majorette. Et sur le sachet, il y avait les voitures suivantes de la collection, les prochaines sorties.
Histoire de donner le goût d'en acheter
d'autres.
Voilà,
donc un bon sens du marketing. Il y avait des règles, il y avait des buvards. Vous savez, les buvards pour ramasser l'encre qui déborde sur la feuille. Donc, c'était aussi une façon d'être présent dans les écoles. Les présentoirs, il faut voir les présentoirs de majorette à l'époque. J'en ai un dans la collection qui est une espèce de fusée immense fusée. C'est comme une tour en plastique sur laquelle on met toutes les autos tout autour. C'est de toute beauté. C'est une œuvre d'art en soi. Donc, ça a bien fonctionné. Et le modèle d'affaires d'Émile Véron était spécial comparé à Hot Wheels ou à Matchbox parce qu'il employait aussi des femmes au foyer. Il y avait ce qu'on appelle des monteuses à domicile. Donc, elles montaient les petites autos sur le coin de la table à la cuisine en s'occupant aussi des enfants. Et
donc, on leur apportait les pièces détachées par l'eau et elles avaient tâche d'assembler ça à la maison plutôt que d'être dans une usine entassée. Là.
Et plus insolite que ça, il y a même eu des prisonniers qui ont monté des majorettes. Alors, c'était dans l'objet de travaux communautaires ou de travaux rémunérés. C'est quelque chose d'hallucinant. On n'a jamais vu un tel modèle d'affaires. Ce qui fait qu'en 1977, Majorette se lance aussi en bourse. Il y a son entrée en action dans la bourse de Lyon. Ça fonctionne très bien. Donc, c'est vraiment un boom économique. Ça fonctionne très bien jusqu'à la moitié des années 80 où là, il y a une délocalisation. On arrête le Made in France et on commence à produire en Thaïlande. Personnellement, moi, j'ai arrêté à ce moment-là. Je collectionne que du Made in France.
Est-ce qu'il y a eu une perte de la qualité du produit ou on a réussi à conserver une...
Parce que ça s'est vu. Tu sais, on saute de l'automobile, mais je pense au monde de la musique où Fender, à un moment donné, a arrêté de faire ses guitares aux États-Unis, les envoyer au Mexique. Puis bon, là, il y a les époques, mais en fait, Les produits fabriqués au Mexique sont quand même pas mal. On peut penser aux constructeurs automobiles aussi à échelle 1-1, là, où la majorité des véhicules maintenant sont construits dans des pays comme le Mexique, par exemple, ou la Thaïlande pour le cas de la Mitsubishi Mirage. mais la qualité peut parfois demeurer très similaire. Est-ce que c'est une question de perception seulement ou la qualité a vraiment baissé à ce moment-là?
À la base, ça reste une décision d'affaires. Comment faire le plus d'argent sur un objet qu'on vend? Parce que c'est pas l'armée du salut non plus. Il y a de l'argent, du profit à faire. Ce qui est intéressant, c'est que dès le début de la production de Majorette, il y a énormément de choses aléatoires. Mettons, il manquait un pot de peinture, alors le même modèle qui était produit toujours en orange devient bleu soudainement parce qu'il restait une batch de bleu. Alors, c'est très intéressant parce que les petites autos Majorette deviennent un peu comme des timbres. Il y a tellement de variations, tellement de choses différentes. Au début,
Et tout n'est pas répertorié dans des documents d'époque si c'était justement aléatoire, j'imagine.
C'est pour ça qu'on a une espèce de conseil de sage où on est plusieurs grands collectionneurs à partager nos connaissances. On prend des photos. C'est ça qui est fascinant, en fait. C'est pas juste l'auto en tant que telle, c'est toute l'analyse de la production. Et tu parlais de coûts. Ben, justement, il y a des modèles qui ont existé au départ avec des portes ouvrantes. Et à un moment donné, on s'est dit, ça va coûter moins cher de les produire sans portes parce qu'on a un seul moule.
Ouais.
Alors, au lieu d'utiliser, 5 ou 6 machines pour produire un modèle, on n'en a plus qu'une seule machine. Et c'est pour ça qu'il y a un modèle extrêmement rare qui s'appelle l'étal mobile. L'étal mobile, c'est un peu comme un food truck ici. Donc, c'est un véhicule de Citroën qui s'ouvre avec des fenêtres. C'est un magnifique jouet, mais qui demandait énormément de production. Ce qui fait qu'il n'y a eu que 300 000 exemplaires de ce modèle, ce qui est très peu, sachant que Majorette produisait dans les années 80 400 000 modèles par jour.
Par
jour. Donc, ce modèle-là, à lui seul, a été produit juste à 300 000 exemplaires. Il est très difficile à trouver. Moi, j'en ai deux et c'est déjà un miracle.
Donc, essentiellement, en début d'après-midi, ils ont cessé de le produire.
Si on veut raisonner comme ça, oui. Mais c'est un vieux modèle.
Et aujourd'hui, tu parles d'une pièce particulièrement rare. Ça peut valoir combien?
Alors, je peux...
Pour donner une idée, parce que ça, à l'époque, ça valait... Un dollar?
Probablement l'équivalent d'un dollar ou même de 50 sous. Hein. Ouais. On se rappelle, les Matchbox dans les années 60 se vendaient à 49 sous. Mais dans le cas de Majorette, le modèle, le Saint Graal comme on l'appelle, c'est une Citroën DS et pas n'importe laquelle. Sur le toit, il y a un logo qui dit taxi et il y a une autre version où il y a un logo qui dit auto-école. Alors, ce sont deux panneaux en plastique qui sont fixés sur le toit de l'auto. Ils sont très difficiles à trouver, ces modèles-là, parce qu'ils n'ont pas été produits longtemps. On s'en doute, la plaque en plastique souvent sortait. Il y avait un risque que l'enfant l'avale. Donc, ça a été produit de façon très limitée. En termes de prix, généralement, ça va à 4 chiffres en euros. Donc, c'est dans les 2000 euros quand ça va aux enchères. Et ça, c'est une fois par année bissextile.
Ça, c'est la valeur encore supérieure à l'étal mobile dont tu parlais, qui a eu 300 000 exemplaires.
Oui, l'étal mobile va chercher à peu près 3 chiffres généralement. Mais les Citroën DS, taxi et auto-école, moi, j'en ai tenu deux dans ma vie et je me suis jamais permis d'en acheter parce que ça aurait été un peu déraisonnable côté budget.
On parle de la collection depuis tantôt, je suis curieux. Là, comment, en fait, avant de parler de la collection en tant que telle, comment on en vient à collectionner ces véhicules-là? Est-ce que c'est une passion d'enfant qui t'a juste jamais quitté? Est-ce que c'est venu un peu plus tard? Comment
ça
a commencé?
Dans mon cas, c'est exactement ça. J'ai jamais lâché cette passion-là. C'est juste qu'à un moment donné, on travaille, on commence à se faire de l'argent, on se dit « Ah, ben, coudon, je peux m'acheter plus d'autos que ce que mes parents pouvaient m'acheter une fois de temps en temps. » Donc, c'est Noël toute l'année.
Ouais.
Voilà, c'est un peu ça, l'histoire.
Puis pourquoi, Majorette? Parce que moi, j'ai eu beaucoup... Puis je sais, Germain, tu connais beaucoup le monde des miniatures. Moi, beaucoup moins. Je tripais là-dessus quand j'étais jeune, comme bien des amoureux d'automobiles. Mais pour moi, une Majorette ou une Matchbox ou peu importe la marque, moi, l'important, c'était que le véhicule soit cool. Tu sais, je me souviens encore, j'avais une Ferrari F50 que j'aimais tellement. Puis je peux même pas dire c'était quelle marque. Pourquoi Majorette? Pourquoi s'arrêter à une marque en particulier?
Ben là, on s'arrête à une marque en particulier dans le cadre de cette entrevue, mais j'ai d'autres thèmes de collection, etc. Mais les Majorettes, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement parce que petit, j'avais l'habitude d'en avoir beaucoup. Il faut dire aussi que ce sont des jouets français, donc il y avait énormément de références françaises sur les véhicules, le camion poubelle, des publicités françaises ou même canadiennes, on pourra en reparler. Il y a eu énormément de promotions canadiennes aussi de Majorettes. Il y a notamment un camion des meubles Léon, par exemple.
Ah oui.
Donc, j'avais tendance à m'y attacher plus parce que c'était quelque chose que je reconnaissais, alors qu'une Matchbox avec une compagnie de whisky écossaise, ça ne me disait pas grand-chose.
Revenons justement sur ce volet canadien-là. Bon, on parlait plutôt d'un distributeur qui était basé à Saint-Hubert, d'un camion modèle réduit aux couleurs de Léon. Il y a eu une voiture de police. En fait, il y a presque eu une voiture de police de la ville de Montréal.
Tout à fait. En fait, c'est une Plymouth Fury qui a été produite par Majorette. Et sur la boîte, parce que vous savez, je fais partie aussi des collectionneurs un peu orthodoxes. Là, pour moi, la boîte fait aussi partie du jouet, partie intégrante du jouet. Sur la boîte, il y avait une illustration de cette Plymouth Fury. Et dans ce dessin-là, on avait fait la mention « Police de Montréal » sur les rebords de l'auto. Elle n'a jamais été produite avec ce logo-là, malheureusement, mais c'était quand même déjà un hommage pour Montréal avec cette production sur la boîte.
Donc, sur la boîte, on voit l'inscription « Police de Montréal », mais sur la voiture en tant que telle, c'est une voiture de police.
Voilà, c'est une voiture bleue, très standard, avec un blason normal.
Ouais.
Mais ce qui est intéressant, c'est que cette même auto a été produite aussi en jaune. Et puis, à un moment donné, on se creusait la tête en disant « Comment ça se fait qu'elle est jaune? C'est une auto de police. » Et après avoir fait des recherches dans ce conseil de sages, comme j'en parlais tantôt, on a découvert qu'il y avait des voitures de police jaunes à Toronto dans les années 70.
Ah,
et
wow.
Probablement que le service de recherche de Majorette est tombé là-dessus et s'est dit « Coudon, on va faire une auto
jaune. » Il nous reste un galon de jaune, alors pourquoi pas les couler de cette manière.
Comment ça fonctionne, ce conseil de sage-là? Ça me semble hyper mystérieux.
C'est comme les chevaliers de Colomb, en fait. Si on n'en fait pas partie, on ne peut pas y accéder. On ne peut pas en parler.
Ben, au départ, on était dans un forum très privé où on était juste quelques membres et c'était vraiment les big shots, comme on dit en bon français. Les grands collectionneurs, ou disons les collectionneurs passionnés.
Quels critères ça prend?
Ben, il faut avoir un certain intérêt, et un intérêt certain. Il faut donner aussi un certain input et puis une certaine plus-value aux discussions plutôt que dire « Oh, wow, c'est beau, j'en veux une ». Ça, ça va pas très loin, ça vole pas très haut. Donc, chacun a mis un peu sa pierre à ce mur-là, à cette fondation-là, puis on a réussi à bâtir quelque chose de fantastique dans ce petit forum. Puis après ça, évidemment, il y a Facebook qui est arrivé et qui a un peu déstabilisé toute la donne. Et on s'est retrouvé sur des groupes Facebook. Et c'est là où on est présentement. Ce sont des groupes qui sont, pas publics. On peut y adhérer sans nécessairement présenter son CV. Et à partir de là, on discute, on échange. Et c'est souvent avec des photos. Donc, on met une photo. Puis là, les gens commencent à commenter. « Ah, coudonc, j'avais jamais vu cette auto-là dans telle couleur ou dans telle variation. » Et c'est là qu'on discute et qu'on échange.
Même s'il n'y a pas de classement officiel mondial comme au tennis, simplement pour nous donner un ordre d'idée de l'importance de ta collection, à quel niveau pourrais-tu te classer?
Ben, moi, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité et de passion. Je pense que je suis quelqu'un de très, très, très passionné pour les Majorettes. Je pense qu'au Canada, voire en Amérique du Nord, j'ai probablement eu la plus importante collection, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres fous, comme je le dis, de façon gentille et amicale.
Bien sûr.
Il y en a d'autres, et puis ils sont surtout basés en Europe, évidemment, parce que c'est là où est le nid de production de Majorettes à la base. Donc, on est quelques-uns, et puis on a l'occasion de se voir au moins une fois par année. Du moins, ça, c'était avant la COVID, parce qu'on se voit à des bourses de collectionneurs, des salons de collectionneurs à l'étranger. Et c'est là où ça devient à la fois social, amical et aussi académique, parce qu'on échange des connaissances sur le sujet.
Je comprends que la qualité prime sur la quantité, mais j'entends des auditeurs crier dans mes écouteurs. À combien d'exemplaires environ se chiffre ta collection?
Ah, j'ai dépassé les 20 000 voitures en général. Là, mais non, tout confondu, toute marque confondue, mais j'ai arrêté de compter depuis longtemps.
Ah ouais, moi aussi j'aurais arrêté.
Bon, tu disais participer à des salons, pas juste locaux, mais à l'international aussi. Est-ce que c'est le seul moyen que tu utilises pour trouver ces dernières pièces manquantes à la collection?
Non, je parlais d'un monstre tantôt qui est Facebook, mais il y a un autre monstre qui est encore plus eBay, dommageable, hein? C'est eBay pour le portefeuille.
Facebook, c'est gratuit. Hein?
Au moins, pour l'instant, c'est gratuit. Donc, eBay, oui, effectivement, j'ai trouvé de très, très belles pièces sur eBay, mais évidemment, il y a de la concurrence et parfois, c'est certains de nos frères, entre guillemets, ça finit en carnage aux enchères. Donc, moi, personnellement, je préfère aller à la chasse sur le terrain. Il y a eu de très belles histoires où je me suis ramassé une vente de garage, ramassé un stock complet de majorettes qui était dans les boîtes, qui était intouché. Et après ça, il y a tout le pédigré, d'où ça vient, comment ça se fait que tout ce beau stock se retrouve sur le boulevard Viau en plein mois d'août sur une table. Alors,
ça, c'est carrément en te promenant puis en zioutant les ventes de garage.
Ou les marchés aux puces, les bazars d'église. Bon, ça, c'est la technique de base. Il y a aussi Kijiji maintenant. Il y en a beaucoup qui utilisent Marketplace et Kijiji. Mais il y a aussi les voyages à l'étranger où on peut trouver d'autres choses très intéressantes.
Ce qui me fascine toujours, c'est que ce sont des jouets et de les retrouver 25, 30, 40 ans plus tard, encore dans l'emballage et dans le carton d'origine, c'est impensable parce que c'était pas la destinée initiale de cet objet-là.
Non, absolument.
C'était pas destiné à être collectionné. Non. C'était destiné à être utilisé dans un carré de sable.
À être consommé immédiatement. Oui. Et c'est pour ça que c'est parfois hallucinant de tomber sur des pièces. Parmi les 4 emballages canadiens que j'ai une voiture avec l'étiquette de prix de chez Steinberg. Donc le supermarché a fermé, il n'existe même plus. Et il y a encore l'étiquette sur l'emballage. Il y a quelque chose de très beau.
Est-ce qu'il y a le reçu de caisse aussi? Ou...
Non, on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. Mais ça met en valeur ces pièces. Et je le disais tantôt, pour moi, la boîte fait partie intégrante du jouet. C'est un ensemble. C'est pas juste l'auto en tant que tel.
C'est pas juste toi. Je pense dans le monde des collectionneurs en général, un véhicule qui vient avec la boîte a une valeur
Un collectionneur de Barbie, par exemple, tout l'emballage...
Ouais,
tout
ça se limite pas aux miniatures.
C'est un peu comme un bon vin. Il est bon quand il est encore scellé dans la bouteille. Une fois qu'on l'ouvre, on vient de perdre plusieurs milliers de dollars.
Voilà. Ouais. Ouais.
Mais j'ai des amis, il y en a un en particulier à qui je pense, qui a commis ce que j'appelle en bon français des blistericides, c'est-à-dire qui ouvre les blisters, qui ouvre les emballages et qui prend l'auto et qui jette l'emballage. Pour moi, c'est digne d'un procès à la haie, mais il y en a...
C'est comme mettre de l'ananas sur sa pizza.
Oui, notamment. Alors, moi, je vous dirais que je ne suis pas du tout de cette école-là, mais bon, il y en a qui veulent vraiment toucher l'auto, la rouler dans les mains, sur la table. Ben, tant mieux pour eux. Moi, je ne pourrais jamais faire ça.
Puis, il faut dire aussi, à une certaine époque, c'était des boîtes de carton qu'on pouvait ouvrir, refermer, remettre la petite voiture à l'intérieur. Maintenant, ce sont principalement des emballages scellés, donc une fois que...
Avec un plastique transparent.
Avec le plastique transparent. Absolument. Une fois qu'on l'a déchiré ou même ouvert le plus délicatement possible avec un exacto, il est trop tard. On peut plus receller l'emballage.
C'est un point de non-retour. Donc, il faut faire un choix. Est-ce qu'on la garde dans la boîte ou on la sort? C'est ça.
Et toi, tu as fait ton choix. Tu mentionnais en 1987 que tout a changé avec la délocalisation en Thaïlande. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Parce que Majorette existe toujours maintenant.
C'est toujours fabriqué là-bas?
C'est toujours fabriqué là-bas. L'usine, d'ailleurs, avait fait l'objet d'un sinistre. Je ne sais plus si c'était une inondation ou un incendie. Elle a été recréée. L'usine fonctionne très bien maintenant. Il y a comme une espèce de reprise de cette mode du die-cast avec Greenlight aux États-Unis qui est extrêmement présent sur le marché. Hot Wheels qui continue aussi à être très, très agressif dans ses percées. Et Majorette est réapparue par miracle il y a quelques années avec de nouvelles gammes, avec de nouveaux produits. Et on sent qu'il y a un nouvel intérêt. Ça recommence à buzzer, mais ça reste du made in Thailand. C'est plus du made in France. Il y a plein de collectionneurs qui n'en font pas du tout cas, ça ne les dérange pas. Moi, personnellement, je continue à surveiller ça à distance, mais je reste un nostalgique, donc je me concentre sur la production pré-87.
Donc, dans ta collection, il n'y a pas vraiment d'unité post-87?
Je ne suis pas à ce point puriste, il y a quelques exceptions. J'ai un beau combi de Volkswagen avec le logo de Majorette dessus.
Ah ouais.
J'ai une Toyota Celica parce que j'aime bien le modèle, mais au-delà de ça, non, je ne vais pas plus loin.
Est-ce que dans ta collection, il y a... En fait, deux questions. Est-ce qu'il y a un modèle que tu apprécies particulièrement, puis est-ce qu'il y a un modèle manquant que tu voudrais absolument ajouter éventuellement à la collection?
Ben, le modèle manquant, ça reste une des deux Citroën DS dont je parlais. Okay. Les modèles que j'aime beaucoup, ben, je vous dirais qu'il y a surtout la Plymouth Fury que j'aime énormément, ouais. Puis il y a eu tellement de variations, donc on n'est pas sorti du bois. Il y a encore des couleurs, il y a des types de roues à trouver, des types de gyrophares, ce qui fait que la chasse est perpétuelle et elle ne s'arrête pas, et c'est ça qui est le fun, en quelque sorte.
C'est tout qu'un monde, hein?
Voilà.
En terminant, Nadie, glisse-nous un mot sur une autre de tes collections de voitures miniatures, si tu le veux bien, qui n'était pas l'objet principal de cette entrevue, mais qui n'est pas moins fascinante. C'est la collection de véhicules de caméras.
Voilà, parce qu'en fait, c'est mon métier aussi, hein. Je suis journaliste, donc j'ai une collection de camions de télévision, donc avec des antennes, des caméras sur le toit, des véhicules de tournage. Ce sont des modèles très fragiles, hein, parce qu'il y a énormément d'accessoires, donc ça se casse. Mais j'ai de beaux modèles aussi dans ce thème-là. Et peut-être qu'un jour, je publierai un livre parce que ça prendra moins de place que les vitrines que j'ai.
Merci beaucoup, Nadie.
Merci.